Oh. Allez, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Très content d'être là ce soir, une fois de plus, parmi vous. Et si vous avez vu au début que je riais pas tout seul. Je riais pas dans l'esprit. C'était vraiment avec ma sœur Dorothée, mes frères Gilles et Léo qui sont là ce soir pour me supporter. Pour vous supporter aussi, pour vous permettre dans le fond de pouvoir recevoir cette étude, cet enseignement de la parole de Dieu. Et à vous tous, on vous dit bonsoir et en espérant que vous soyez bénis. Je pense que vous serez bénis. Toute personne qui a un cœur ouvert au Seigneur, eh bien le Seigneur va certainement bénir. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons remettre ce temps dans les mains du Seigneur. On est déjà rendu à la séance numéro 27. Donc, Dieu est bon. On continue. On pourrait être rendu à la séance 727 et encore continuer à apprendre et à s'enrichir de plein de belles choses et d'utiles choses qui sont dans la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc, on est reconnaissant. Pour tout cela, pour que le Seigneur nous parle, pas seulement à travers cette étude, mais aussi les bénédictions matinales, le lundi, les études avec le pasteur André, le dimanche. Et puis, je pense qu'on est très bien nourris et gloire à Dieu pour cela. Toute la gloire soit donnée au Seigneur. Donc, prions, élevons la voix, remettons ce matin entre les mains du Seigneur. Jésus, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour la vie, premièrement, Seigneur, ce souffle de vie qui est en nous encore et qui nous permet, Seigneur, de voir ta bonté, ta fidélité, Seigneur, s'accomplir dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies. Seigneur, merci parce que malgré, Seigneur, les situations troublantes, les situations d'inquiétude, le contexte dans lequel nous vivons, Seigneur, tu es fidèle, tu es ce roc, tu es ce rocher, tu es cette forteresse, Seigneur. Pour nous, tu es cette haute retraite, tu es notre paix, notre espérance, notre joie, Seigneur, et on veut tout simplement s'abandonner à toi et être, Seigneur, rempli de toi et être entouré de toi, Seigneur, dans la plénitude parfaite de Dieu. Seigneur, bénis nos vies à travers ta parole, à travers cet enseignement, éclaire nos cœurs, Seigneur, illumine nos yeux. Seigneur, que nous puissions comprendre, que nous puissions saisir encore plus l'état des choses, notre condition de cœur, mais également ton plan et l'espoir que nous avons rattaché, Seigneur, à cet appel que tu nous as lancé, Seigneur, de te servir en ce temps de pandémie, en ce temps si incertain. Alors, je bénis chaque personne qui est là, Seigneur, qui écoute, qui va recevoir cet enseignement, et toute personne également qui l'écoutera plus tard. Seigneur, que la fraîcheur de ta présence, la fraîcheur de ton esprit, vienne, Seigneur, bénir et toucher chaque personne dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons dans Marc au chapitre 8, et nous allons lire du verset 22 au verset 26. Nous allons lire le verset, par la suite on va faire un bref résumé de la semaine dernière. C'est bref parce qu'on va pas tout reprendre. Et pour aller plus en détail ou pour réécouter dans le fond des sessions précédentes, tout est je pense sur la page Facebook. Donc vous pouvez aller chercher là toutes les autres sessions. Aussi, il y en a une en particulier que vous aimeriez écouter à nouveau. Donc Marc au chapitre 8, nous lisons. C'est la guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Verset 22, « Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Et Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Donc, que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole. Bref survol de la semaine précédente. Qu'est-ce que nous avons parlé, partagé la semaine dernière? Eh bien, nous avons partagé le camp, dans le fond, après la seconde multiplication des pains. Jésus, aussitôt, il monte sur la barque. Et cette fois, il monte sur la barque avec les disciples. Et rendu de l'autre côté, il y a des pharisiens qui apparaissent. Et lui demande un signe du ciel. Et là, il y a un échange entre... enfin, il y a une réponse aux pharisiens, mais par la suite, il y a un échange avec ses disciples qui ne semblent pas avoir compris qu'est-ce que Jésus était en train de dire et de faire à ce moment-là. Mais ce qu'on a vu comme premier point, c'est concernant la tentation, parce que les pharisiens sont apparus pour l'éprouver. Et lors de la première multiplication, Jésus avait vu dans les cœurs que les gens qui étaient là avaient l'intention de le prendre et le proclamer roi. Et donc, voyant cela ou sachant cela, Jésus a tout de suite ordonné que les disciples aillent sur la barque et lui s'est occupé de renvoyer la foule. Pardon. Et là, on dirait qu'il y a comme un espèce de déjà-vu. Donc, sachant qu'il y avait potentiellement une situation qui pourrait se convertir en un piège ou en une tentation, Jésus, aussitôt, il renvoie la foule et lui s'embarque avec les disciples. Donc, on parlait de la tentation, on disait qu'il ne fallait jamais prendre la tentation à la légère. Jésus ne donnait même pas accès ou la possibilité à ce qu'une situation puisse se développer. Et ça, ça doit nous parler, parce que parfois, il y a des situations qui se pointent, qui se présentent, et par manque de discernement, nous pouvons nous retrouver dans une situation malencontreuse. Mais également, on peut nous-mêmes se mettre dans cette situation-là. Et on voit que Jésus ne prend pas à la légère la tentation et ne veut laisser aucune marge de manœuvre. Donc, il le fait ainsi juste après la multiplication des pains. Et dès qu'il traverse de l'autre côté, immédiatement, il y a une autre situation qui l'attend. Les pharisiens l'attendent pour le tenter. Donc, ce qu'on disait dans le fond par rapport à la tentation, c'est un, qu'il ne faut jamais prendre la tentation à la légère. Deux, qu'il faut faire face à la tentation. Et que cela, faire face à une tentation, ça fait partie d'une lutte quotidienne. Même pour les chrétiens, les croyants les plus affermis, les plus expérimentés, ces croyants-là sont tentés quotidiennement. Et un fait important, c'est que nul ne peut à résister par ses propres forces trop souvent. Trop souvent, on essaie de faire les choses basées sur notre propre raisonnement, notre propre capacité, et trop de fois, ça ne porte pas de fruits. Trop de fois, ça mène à l'échec. Ça mène à la défaite. Et l'importance aussi de rester vigilant. La Bible nous recommande à plusieurs reprises d'être vigilant, de ne pas s'endormir, de ne pas baisser la garde, parce que parfois, on ne la voit pas venir. Et de la façon comment la Bible présente les pharisiens qui viennent demander à Jésus un signe, c'est comme s'ils sont apparus. Pouf! Donc, parfois, on ne voit pas venir des situations se présenter et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas prendre la tentation à la légère. On a vu que les pharisiens ont demandé un signe venant du ciel. Et dans le fond, ils demandaient à ce que Jésus fasse que quelque chose arrive, un événement, un signe, un exploit qui aille à l'encontre des lois naturelles, qui aille à l'encontre de la gravité, bref, quelque chose d'extraordinaire, mais dans le fond, ils n'avaient aucune intention de croire. Et la réponse de Jésus a été, bien, le seul signe que vous aurez ou que cette génération aura, c'est celle de Jonas, c'est le miracle de Jonas. Et on a vu que Jonas, dans le fond, lui, quel était le signe de Jonas? C'était Jonas. Et c'était Jonas et son message pour Ninive. Et que le seul signe pour cette génération-là, eh bien, ce serait Jésus. Et Jésus est le signe qui est venu du ciel avec le message de l'Évangile. C'est le signe absolu. Mais également, ça doit nous dire que nous, en tant que serviteurs, également, nous sommes un signe pour cette génération. Des gens s'attendent à voir Dieu, s'attendent à entendre Dieu, et le seul signe que Dieu va leur envoyer, c'est toi et c'est moi. Donc, ça met vraiment l'emphase sur l'importance de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, de ce que nous devons faire en tant que service, parce que dans bien des cas, ce sera le seul signe que les gens auront de la part de Dieu. On a parlé par la suite du levain ou de la levure. Jésus donne une mise en garde de prendre soin de ne pas avoir de la levure des pharisiens, la levure d'Hérode. Et qu'est-ce qu'on a vu par rapport à la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau? Eh bien, on a vu que dans l'Ancien Testament, la levure ou le levain représente le péché. Mais également, dans la Bible, le levain représente l'hypocrisie, la désobéissance, l'orgueil et la soif de pouvoir. Donc, Jésus était en train de leur dire, évitez ces choses-là parce que ça va venir altérer mon œuvre en vous. Ça va venir altérer votre cœur, ça va venir altérer votre pensée, ça va venir altérer votre qualité de service et vous ne serez pas agréable à Dieu. Donc, des recommandations qui sont également pour nous importantes dans les temps que nous vivons, à faire attention avec le péché, faire attention avec l'hypocrisie, faire attention avec la désobéissance. Puis on ne parle pas ici d'une désobéissance que délibérément je vais à l'encontre. C'est une désobéissance quand on mélange ce qui est dans la parole de Dieu avec d'autres choses, avec d'autres philosophies, avec d'autres courants de pensée, en pensant rendre la parole de Dieu meilleure ou en pensant rendre les choses à l'Église meilleures. Et en faisant de cette sorte, on annule la parole de Dieu et on devient automatiquement désobéissant à elle. Et donc, faisons attention à cela et faisons attention à l'orgueil, la soif de pouvoir qui était le levain dans le cœur d'Hérode. Aujourd'hui, on continue, dans le fond, après ce passage-là, et on trouve quelque chose de particulier parce que Jésus guérit tellement de gens, Jésus fait tellement de miracles, Jésus touche la vie de tellement de personnes. Pourquoi, de façon spécifique, on retrouve la guérison de cet homme-là à Bethsaïda, de cet aveugle? Pourquoi est-ce qu'on le retrouve ici? Je veux dire, il y a eu tellement de guérisons, il y a tellement de gens qui ont été touchés. Pourquoi particulièrement l'Esprit de Dieu a inspiré Marc pour inscrire ou rajouter ici cet événement-là à Bethsaïda? Il faut comprendre que tout est relié. Tout a un lien. Et bien souvent, lorsqu'on regarde la Bible, lorsqu'on prépare une méditation, ou est-ce qu'on s'attend que Dieu nous parle, bien souvent, on regarde juste les versets qui touchent l'événement. Et on ne va pas avant, on ne va pas après. Et en faisant ça, on perd de l'essence. On perd parfois l'essentiel. On perd la ligne de pensée de Dieu. Et on se limite seulement, et bien que c'est pas mauvais, je veux dire, chaque verset est tellement riche quand tu l'approfondis, quand tu quand tu fais tes recherches et tu médites, et Dieu va te parler sur un mot. Tu vas pouvoir étudier un mot de la Bible pendant des années, toute ta vie, pendant un mot. Donc, parfois, on se limite, mettons, sur la multiplication, sur tel autre événement, et on pense qu'il y a juste des leçons à tirer en se limitant, disons, à ce passage ou à cet événement-là. Mais il faut apprendre également à prendre un recul et à voir un peu plus le panorama et qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que le Seigneur, ce qu'on doit comprendre à travers la Bible, c'est que le Seigneur travaille sur plusieurs plans en même temps. Et le Seigneur opère dans différentes dimensions même en même temps. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est que il y a une raison pourquoi il y a la guérison de cet aveugle dans le chapitre 8. C'est parce que le thème central, le point central du chapitre 8, c'est le problème de l'aveuglement. Comment ça? Eh bien, dans le chapitre 8, il y a trois groupes de personnes avec qui Jésus est en contact. La première, c'est la foule. La foule lors de la deuxième multiplication des pains. Le deuxième groupe de personnes, ce sont les pharisiens lorsqu'ils viennent demander un signe venant du ciel. Et le troisième, ce sont les disciples. Lorsque, étant sur la barque, ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur expliquer par rapport au levain. Et on va le voir. Si on commence par la foule nombreuse, eh bien, la Bible dit dans Marc chapitre 6, verset 34, qui est dans le fond la même situation qui se répète, sauf que lors de la première multiplication, Jésus dit qu'il voit cette foule-là comme des brebis sans berger. Et ça, c'est important à retenir, parce que cette foule représente, dans le fond, le monde, tous les êtres humains. Une représentation du monde. Le deuxième groupe, comme je l'ai dit, c'est les pharisiens qui sont là, qui se présentent et qui demandent un signe du ciel. Mais ils ont pas cru jusqu'à maintenant, en ayant vu, étant témoin de tous les signes et les prodiges, ils croiront pas avec un signe de plus. Et Jésus dit d'eux, dans Matthieu chapitre 15, verset 14, que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc, la foule qui sont comme des brebis, et un brebis sans berger, c'est comme une brebis aveugle. Les pharisiens qui demandent un signe, mais qui ne voient pas les signes, qui ne voient pas tout ce qui se passe devant eux-mêmes dans la création, qui sont complètement aveuglés, à ça, eh bien, eux autres aussi sont frappés d'aveuglement. Et les disciples, qui également ne comprennent pas, Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. Puis tous se regardent parce que, et là, je comprends pas trop, mais la Bible dit qu'ils sont repartis sur la barque avec un pain, alors qu'il avait resté beaucoup de paniers. De pain, pour une raison, je ne sais pas, ils ont peut-être oublié ou ils ont peut-être assumé que chacun allait prendre un morceau de pain puis partir avec lui sur la barque. Mais quand ils sont partis, ils se sont rendus compte qu'ils avaient juste un pain. Et là, la traversée, c'est plusieurs heures. Et ce sont des hommes mûrs, donc un pain, ça ne va pas aller bien loin. Et j'imagine un peu leur visage quand ils constatent qu'ils ont juste un pain, alors qu'il y en avait plein de l'autre bord. Et là, quand Jésus leur dit, gardez-vous du levain, eux autres font une association avec le pain en se disant, ah, ben Jésus est en train de nous parler par rapport au fait qu'on a juste amené un pain sur la barque puis qu'on a laissé toutes les autres là-bas. Donc, même là, ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de leur enseigner. Et Jésus leur dit quelque chose. Au verset 18, il leur dit, « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? » Et donc, les disciples représentent le croyant. Donc, il y a trois groupes ici, trois plans sur lesquels le Seigneur travaille. La foule, le monde, les pharisiens qui représentent le religieux et les disciples qui représentent le croyant. Tous, ces trois groupes, tous à différents niveaux, à différents degrés, sont aveugles, spirituellement. OK? Les trois sont aveugles spirituellement à certains niveaux et à certains degrés. Et tous ont besoin de Jésus, ont besoin de Dieu pour avoir la vue, pour avoir la vision. Même le lieu dans lequel ce miracle a lieu, que c'est la ville de Bethsaïda. Si vous vous souvenez bien, Jésus fait des réprimandes à certaines villes, dont Capernaum, Chorazin, Bethsaïda. Bethsaïda est dans cette liste-là de villes qui ont reçu des représailles de la part, ou des réprimandes plutôt de la part du Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 21, Jésus dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Donc, Bethsaïda avait vu des miracles et ils n'avaient pas cru. Donc, même Bethsaïda, les gens de la ville étaient frappés d'aveuglement spirituel et n'avaient pas été en mesure de distinguer, de constater, de réaliser qu'est-ce qui était en train de se passer dans leur ville. Et c'est un peu après ce moment-là que Jésus fait ce détour, fait ce déplacement vers Tyr et vers Sidon. Donc, vous voyez, le point central, dans le fond, le fait qu'il y a cette guérison-là de cet aveugle n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur. C'est parce que le point central que Jésus est en train que Jésus va démontrer, que Jésus veut expliquer, c'est qu'il y a un problème d'aveuglement avec tout le monde, mais à différents degrés. Et ça, on va le voir. On le sait tous, la vision, avoir une vision est importante pour avoir une vie normale. Une personne qui est aveugle a énormément de difficultés, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en place qui peuvent permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Le fait est que sans la vision, c'est difficile. C'est dur. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances qui viennent avec le manque ou avec l'absence de la vision. Donc, elle est importante. Et elle est importante dans la Bible également. Et c'est ce qu'on va étudier un peu ce soir. Jésus en parle, on en trouve partout dans la Bible, mais Jésus en parle et il y a un verset, ou en fait, il y a deux versets dans Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23, qui dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? » Jésus ici est en train de parler d'un... commence sur le plan physique, mais apporte ce sens spirituel également dans sa déclaration. Premièrement, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'œil, lorsqu'il est ouvert, lorsqu'il a de la vision, il est capable de communiquer au reste du corps et de transmettre au reste du corps la lumière qu'il y a autour. Donc, l'œil est capable de percevoir à travers la lumière qu'il y a autour ce qui se passe dans l'environnement. Il est capable de le communiquer au corps. Et le corps agit en conséquence. C'est normal, on le fait tous. Naturellement, si nous sommes devant un escalier, mais on sait que si on veut monter les escaliers, ben, il faut lever une jambe et après ça un autre. C'est pas la même chose que lorsqu'on marche sur du sol qui est aplani. C'est pas la même chose. Donc, ou s'il y a des obstacles devant, ben, l'œil va nous dire, va nous indiquer qu'il y a un obstacle devant, donc qu'il faut le contourner ou qu'il faut le prendre et le mettre de côté. Donc, l'œil ouvert, l'œil qui a la vision, communique au corps ce qui se passe. Parce que la lumière lui permet de voir. L'œil qui est fermé, donc l'œil qui n'a pas la capacité de vue, de vision, ne communique rien. Donc, en ne communiquant rien, le corps reste dans le noir. La personne est complètement dans le noir. Et de là, ben, on comprend que nos gestes, nos actions, vont dépendre en grande partie de la qualité de notre vue. Si on a une bonne qualité, si on a une mauvaise qualité, bien ça va se voir. Si on n'a pas les bonnes lunettes, on va avoir la difficulté à conduire, on va avoir la difficulté à lire, on va avoir beaucoup de difficultés. Tandis que si on a les bonnes lunettes ou si on a la bonne vue, alors les choses sont plus faciles pour nos déplacements, pour nos décisions, pour nos gestes, pour bien des choses. Donc l'importance de la vision, l'importance de la vue, elle est là sur le plan physique. Sur le plan spirituel maintenant, eh bien avoir une vision spirituelle des choses, c'est d'avoir une bonne capacité de voir et de comprendre les réalités spirituelles, les vérités spirituelles du royaume de Dieu. Avoir une vision spirituelle, c'est de comprendre ce que l'Évangile est et ce que l'Évangile nous dit. C'est de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. C'est de comprendre ce que Jésus nous dit. Et il est possible que des gens ne comprennent pas l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Je me souviens, il y a des années en arrière, je parlais avec une jeune fille qui, elle a grandi dans l'Église. Elle est pratiquement née dans l'Église. Et un jour, on parlait de l'Évangile et elle me disait, je ne comprends rien. Je ne comprends rien de l'Évangile. Je ne comprends rien de la Bible. Je ne comprends rien de la parole de Dieu. Et dans ma tête, je me disais, mais comment est-ce possible? Tu es née à l'Église, tu viens toutes les fins de semaine à l'Église et tu dis que tu ne comprends rien. Ça m'a frappé. Mais après ça, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y a cet aveuglement. Il y a cet aveuglement spirituel qui empêche les gens de voir et de comprendre les vérités spirituelles du royaume de Dieu, de la parole de Dieu. Et donc, n'étant pas dans la possibilité de le voir ni de comprendre, mais ne peuvent pas vivre non plus dans ces principes. Mais une personne qui a la vision spirituelle, bon, comprend les voies et est capable de vivre dans ses principes et dans ses vérités-là spirituelles. Le contraire, donc l'aveuglement, eh bien, c'est l'incapacité justement, c'est le contraire, c'est l'incapacité à comprendre et à interpréter les vérités spirituelles. Et Paul comprend très bien cela. Pour lui, ça a une très grande importance. Et dans sa prière fervente qu'il faisait envers les Éphésiens, il dit quelque chose. Il dit quelque chose d'important qui est en lien avec ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il dit au verset 18, il dit, « Et qu'il illumine, en parlant du Seigneur, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » C'est-à-dire, les gens pouvaient voir qu'il y avait un appel. Les gens pouvaient recevoir un appel. Mais c'est seulement à travers la vision spirituelle, à travers seulement la vision du cœur, que ces gens-là pouvaient voir l'espérance qui était attachée à l'appel. ils voyaient l'appel, ou ils étaient conscients de l'appel, mais ils ne voyaient pas l'espérance attachée à l'appel. Et ils continuaient aussi avec une liste d'énumération de choses que, sans vision spirituelle, il est impossible de voir, il est impossible de comprendre, et il est impossible de vivre. Il y a des gens qui peuvent être dans un service, mais n'ont jamais vu ou n'ont jamais compris l'espérance, c'est-à-dire la promesse, la vision, la portée, le mandat qui est attaché avec l'appel. Donc, ils vont comme ils peuvent, ils vont à gauche, ils vont à droite, mais ils font du service. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Un jour, c'est comme ci, un autre jour, c'est comme ça. Mais parce qu'ils n'ont pas cette espérance-là, donc, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à leur vie. Et c'est la vision spirituelle. C'est d'avoir les yeux spirituels ouverts pour comprendre, pour réaliser et pour vivre les principes qu'il y a dans la parole de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont spirituelles. On est béni richement par des bénédictions spirituelles, mais si nous avons une vision brouillée, il y a des bénédictions spirituelles qu'on ne va jamais saisir, qu'on ne va jamais voir, qu'on ne va jamais comprendre, qu'on ne va jamais vivre. Pourquoi? Parce que nos yeux sont malades. À l'époque, il n'était pas rare que des gens perdent la vue ou que des gens perdent une partie de la vue parce que les mesures d'hygiène n'étaient pas comme aujourd'hui, la connaissance aussi au niveau de la science n'était pas comme aujourd'hui. Donc, des gens n'ayant pas la même hygiène, parfois il y avait des infections qui se créaient autour des yeux et qui rendaient la personne aveugle ou qui lui faisaient perdre de la vue. Donc, ce n'était pas quelque chose de rare à l'époque. Et donc, il y a des choses également qui, dans nos vies, des choses mauvaises qui peuvent grandir autour de nos yeux et qui peuvent nous aveugler sans qu'on s'en rende compte. Mais on dit mener une vie chrétienne, on dit avoir une vie normale, mais notre vue est mauvaise et on se met dans des problèmes et on rate des occasions. Et on trébuche là où on ne devrait pas trébucher. On va dans des situations où est-ce qu'on ne devrait pas y aller. Pourquoi? Justement parce qu'on manque de vision et de vue spirituelle. Et donc, Paul, quand il prie aux Éphésiens, il dit, je ne veux pas que ça vous arrive. Je ne veux pas que ça vous arrive. Je veux que vous soyez pleinement dans votre vie de service. Je veux que vous soyez pleinement dans la vie que Dieu a pour vous. Donc, vous avez besoin d'avoir les yeux ouverts. Vos yeux ont besoin d'être illuminés, d'être éclairés. Vous ne pouvez pas marcher à tâtons. Vous ne pouvez pas marcher en essayant ici, si ça marche, par là, si ça ne marche pas. Non, non, une vision claire. Des choses spirituelles, une vision claire de la volonté de Dieu. Donc, j'espère qu'avec ça, on comprend l'importance de la vision. Elle est très importante sur le plan physique. Elle l'est autant sur le plan spirituel. Ça va? On va maintenant aller dans les différents groupes et voir un peu qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'aveuglement et qu'est-ce que nous pouvons retirer de cela. Premièrement, l'aveuglement du monde, du premier groupe. Une chose qui est importante, et peut-être que vous avez déjà remarqué dans ce qu'on dit depuis le début, c'est que dans la Bible, les ténèbres et l'aveuglement vont de pair, vont ensemble. L'obscurité, la noirceur et l'aveuglement vont ensemble. À l'opposé, la vue et la lumière vont ensemble également. Donc, le monde qui erre dans les ténèbres, dans l'obscurité, loin de Jésus, Ben, le monde a besoin de la lumière de Christ. Alors, la lumière a besoin de cette lumière-là pour qu'il puisse voir vers qui aller, voir vers où aller. Et en allant vers cette lumière, eh bien, pouvoir recevoir la vie de Christ et avoir la vue spirituelle. Mais tant aussi longtemps que les gens sont dans les ténèbres, tant et aussi longtemps que les gens sont dans l'aveuglement, les gens sont perdus. C'est seulement la lumière de Christ. C'est seulement la lumière de Christ qui peut sauver une âme perdue dans l'obscurité. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un programme d'église. Il n'y a pas un plan de communication. Il n'y a pas une activité. Ce n'est pas un concert. Ce n'est pas le programme le plus sophistiqué ou le plus attrayant. C'est la lumière de Christ. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Donc, le monde a besoin de cette lumière-là. Et cette lumière éclaire à travers nous. Cette lumière éclaire à travers l'Église, à travers le service de l'Église, à travers l'enseignement et la prédication de l'Église. Donc, à travers ton témoignage, à travers mon témoignage, à travers mon service et ton service. C'est comme ça que les autres peuvent voir la lumière de Christ. La Bible nous dit que Jésus voyait la foule comme des brebis sans berger. Une brebis, par elle-même, elle ne sait pas où aller. Une brebis ne sait pas vers qui se tourner. Donc, une brebis sans berger, c'est comme un aveugle sans lumière. Une brebis a besoin de sentir la présence, a besoin de la protection, a besoin de la direction, d'entendre la voix de son berger qui l'appelle, a besoin de la vision du berger. C'est le berger qui dirige, c'est le berger qui conduit. La brebis repose sur la protection, la provision, la direction, la vision de son berger. Et c'est là où est-ce que les âmes ont besoin de Jésus. Les âmes sont comme orphelines, perdues. Et Jésus est ce berger dont ces brebis ont besoin. Jésus le dit également d'une autre façon, mais c'est tellement important. Et on va le voir dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Comprenez qu'ici, ce n'est pas juste sur le plan physique. Jésus, l'intérêt n'était pas uniquement sur le plan physique, mais bien sur le plan spirituel, parce qu'il venait pour sauver l'humanité. Donc, même dans son mandat, lui, sa mission était de donner la vue aux aveugles spirituellement, bien sûr. Et le Seigneur, par la suite, à un moment donné, il parle également à Paul et lui dit ceci dans Actes chapitre 26, versets 17 et 18. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Donc, voyez encore ténèbres, obscurité, aveuglement et la lumière et la vue. Et comment le Seigneur s'exprime face à l'appel de cet apôtre et il lui dit, je t'envoie vers eux pour que tu leur ouvres les yeux. pour que tu leur ouvres les yeux. Donc, notre service, notre raison d'être en tant qu'Église, en tant que croyant, est d'ouvrir les yeux. Et d'ouvrir les yeux avec la lumière de Christ, ce monde qui est dans la dense obscurité. Alors, comprenons une chose, le monde est dans l'obscurité, dans l'aveuglement. Et nous sommes les personnes désignées pour servir le Seigneur et pour servir le monde. Mais en servant le monde, assurons-nous d'apporter la lumière qui va ouvrir les yeux du monde. Deuxième groupe de personnes, l'aveuglement du religieux. Comment est-ce que le religieux est aveugle? Eh bien, il est aveugle parce qu'il est attaché à ses traditions, à ses rudiments, à ses philosophies, à ses lois et préceptes. Il respecte plus sa liste d'obligations et sa liste de restrictions que la parole de Dieu elle-même et son essence. Il est également aveuglé par son orgueil parce que un religieux est tout le temps poussé à démontrer, à prouver sa supériorité, comme quoi il est plus spirituel, il est plus saint, il est plus pur, il est plus juste, il est plus noble, il est meilleur. Il est meilleur. Il est meilleur que toi, il est meilleur que moi. Un religieux est rempli d'orgueil parce que pour lui, il a accompli tout ce qui devait être accompli. Il respecte à la lettre tous les rudiments et les traditions. Donc, il est cocheux. C'est parfait pour lui, il n'y a pas de problème. Donc, pour lui, il est sans faute. Mais toi qui ne respecte pas tout, hein, non, toi, tu es dans une autre classe. Tu n'es pas rendu là. Tu n'es pas au même niveau. Parce que tu n'es pas comme lui ou elle, qui, elle, oui, respecte tout. Il applique tout selon la loi, selon les traditions. Le religieux est aveugle également parce qu'il s'oppose fortement lorsque les choses se font ne respectant pas leur code ou leur précepte. Et même s'oppose à l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu se manifeste et que cela ne rentre pas, ne cadre pas dans leur programme, dans leur code, il s'oppose. Et les pharisiens s'opposaient à Jésus. Les religieux s'opposaient à Jésus parce que ce que Jésus faisait, qui était l'œuvre de Dieu, ne cadrait pas avec leur code. Et donc, un religieux va être aveugle. Va pas voir que ce qui est en train de se passer à ce moment-là, précisément, c'est l'œuvre de Dieu. Il va dire que c'est l'œuvre du diable. Il va dire que c'est l'œuvre de la chair. Mais c'est lui, le religieux, qui est profondément aveugle. Et il est aveugle parce qu'il se croit juste par ses propres œuvres, par ses propres accomplissements. Et qu'il se croit également en mesure de juger les autres, en mesure de guider les autres, en mesure d'influencer les autres et de décider pour les autres qui est bien, qui n'est pas bien, qui est dans la vérité, qui n'est pas dans la vérité, qui est saint, qui n'est pas saint. Les religieux font ça. Puis moi, j'en ai connu. Puis il y en a eu. Des gens qui sont très bons pour juger les autres, très bons pour dire, ah, cette personne-là est si, ça. Mais eux, non, ils sont intouchables. Ils sont sans péché. Il y en a dans les églises. Et Jésus leur dit quelque chose. Au verset 16 du chapitre 23 de Matthieu, donc Matthieu 23, 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous qui voulez influencer les gens, vous qui voulez décider pour les autres. Ben, vous êtes aveugle. Et on a vu aussi dans un autre passage que Jésus dit, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Pourquoi? Parce que eux, leurs yeux sont sur la tradition, leurs yeux sont sur leurs propres œuvres, leurs yeux sont sur eux-mêmes, et non pas sur Christ, non pas sur l'œuvre de la croix. Alors, ils sont aveugles. Et toute personne qui voudront conduire, ben, ils vont les conduire vers autre chose que Christ. Donc, ce sera des aveugles qui vont conduire d'autres. D'autres aveugles, malheureusement. Et cela, il faut faire attention parce que c'est une menace, c'est quelque chose qui existe et qui peut amener une église, amener des chrétiens, non pas vers la plénitude de Dieu, non pas vers une vie remplie de l'Esprit de Dieu et d'une vision spirituelle saine. Ça va les diriger vers autre chose. Mais certainement pas là où est-ce que le Seigneur est. Et Jésus leur dit également dans Jean chapitre 9, versets 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Tu sais, en disant, « Voilà. » T'es-tu en train de nous, à nous, qui sommes pharisiens, t'es-tu en train de dire que nous sommes aveugles? T'es-tu en train de dire que nous, on est comme le reste du monde? Et Jésus leur répondit, ben, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Donc, vous affirmez avoir la vue spirituelle. Vous affirmez avoir le discernement. Vous affirmez être dans la vérité et être dans le Seigneur, bien, votre péché subsiste. Vous continuez à être dans votre péché. Il n'y a eu aucune repentance, il n'y a eu aucune transformation, il n'y a aucune nouvelle créature qui s'est manifestée parce que vous avez juste adopté une religion et vous pensez être correct avec Dieu, alors que non, votre péché est encore là. C'est grave quand même, mais je pense que si Jésus travaille sur ce plan-là aussi dans le chapitre 8, c'est parce que c'est important pour nous de pas tomber dans ça, de pas tomber dans l'esprit de religiosité, ni tomber dans l'esprit de pharisien, ni dans le légalisme. L'essence de la parole n'y est pas. Et encore moins, la vision spirituelle des préceptes, des vérités du royaume de Dieu ne sont pas là. Et ce n'est pas ce qu'on doit prêcher, ce qu'on doit enseigner, ce qu'on doit vivre. Donc, voilà pour l'aveuglement du religieux. Et là, on va aller dans l'aveuglement du croyant. Et on va aller dans Marc au chapitre 8, le verset 18, et il y en a qui diront, comment ça se fait? Ben là, j'imagine quand tu viens à Jésus, Jésus te donne la vue, te donne la vie, tu es dans la lumière, fait que tu as une compréhension totale, parfaite, complète de tout le royaume de Dieu. Eh bien, non. Les disciples, eux, et on va le voir également, ils avaient des moments où c'était très beau ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. On sentait qu'il y avait eu un changement et la seconde d'après, on dirait qu'ils avaient complètement oublié tout cela. Donc, on dirait qu'ils faisaient un pas vers l'avant et deux pas vers l'arrière. Donc, au verset 18 de Marc 8, Jésus leur dit quelque chose. Il leur dit, « Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? » Par là, ce qu'on doit comprendre, c'est que il semble avoir un lien entre l'état du cœur et la vue. Parce qu'il pose la première question, avez-vous le cœur endurci? Et la deuxième question, avez-vous des yeux et êtes-vous aveugle? Donc, il y a un lien entre l'état de notre cœur et la condition de notre vue spirituel. Ici, on voit clair que les disciples étaient aveugles parce que Jésus leur parlait du levain des pharisiens et du levain d'Hérode et les disciples pensaient qu'il faisait allusion au, au morceau de pain qu'ils allaient devoir partager parce qu'ils avaient oublié tout le reste de l'auban. Jésus est en train de parler de vérité du royaume de Dieu. Jésus est en train de parler de préceptes, de vérité spirituelle. Les disciples sont sur un plan terrestre. Jésus parle de choses spirituelles. Les disciples parlent de choses naturelles. Jésus est en train de raisonner, de parler d'un raisonnement spirituel, d'une sagesse qui est spirituelle. Les disciples sont en train d'avoir un raisonnement entre eux qui est naturel et qui est humain. Comprenez ce qui se passe là, la différence? Pourquoi il y a ce disconnect? Pourquoi il n'y a pas cette connexion-là? Pourquoi ils ne sont pas sur la même longueur d'onde? Parce que les disciples, un, ont le cœur endurci, et deux, ils ont un problème de vision. Ils ont un problème de vue spirituelle. Il y a un autre passage dans 2 Rois, chapitre 6, versets 16 et 17, qui parle également de la même chose. Élisée, il y a une armée qui vient contre lui, contre le prophète de Dieu. Et là, le serviteur d'Élisée dit, on va mourir, c'est fini pour nous. Il vient de nous tuer. Oh my God. Et puis là, Élisée, il fait une prière. Et puis il lui dit, au fait, avant de prier, Élisée lui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Là, le serviteur a pu se tourner vers Élisée puis lui dire, qu'est-ce que tu as fumé, toi? Tu en as fumé du bon, là, parce que moi, la seule chose que je vois là autour, c'est les ennemis. Là. Les ennemis avec des armes, les ennemis avec le regard méchant, et qui ne viennent pas prendre le thé. Là. Et qui, ils viennent nous couper la tête, puis nous couper en morceaux. Là. C'est fini pour nous. Puis là, toi, tu es en train de dire que ceux qui sont avec nous sont plus grands, ils sont plus nombreux, que ceux qui sont contre nous. OK, Élisée. C'est bon. Mais là, Élisée pria. Et il dit, Éternel quoi? Ouvre. Éternel, ouvre ses yeux. Pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelqu'un qui était au service de Dieu, mais qui avait... Est-ce qu'on peut dire qu'il avait aucune vision ou qu'il avait une mauvaise vision? Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais les deux réponses nous indiquent clairement qu'il y avait un problème. Élisée voyait. Élisée voyait le secours de Dieu. Élisée voyait la réponse de Dieu. Élisée voyait la fidélité de Dieu. Élisée voyait la puissance de Dieu. Élisée voyait la vérité de Dieu se manifester. Élisée voyait les promesses de Dieu être là, présentes devant lui. Élisée voyait la protection de Dieu. Élisée voyait la parole de Dieu s'accomplir. Élisée voyait le ciel, la dimension du ciel dans sa dimension naturelle. Mais l'autre, où il n'y a absolument rien. Deux croyants, deux chrétiens, un était en paix, dans l'assurance, devant ses ennemis, et l'autre avait abandonné, était dans la panique, dans l'angoisse face à la mort. Deux personnes dont le service aurait été complètement différent. Donc, c'est une question, c'est important parce que si je suis Élisée, eh bien, mon service va aller en accord avec la vision que j'ai comme Élisée. Je vais servir, je vais vivre ma vie en fonction de ce que je vois, de ma compréhension spirituelle des choses. Mais si je suis comme le serviteur, mon service va aller avec la vision que je vais avoir. Ma vie, mon témoignage, va aller avec la vision que je vais avoir. Quelle vision as-tu? Quelle vision avons-nous aujourd'hui? Donc, est-ce que des croyants peuvent être aveugles? Oh oui. Est-ce que des croyants peuvent vivre une vie et passer toute leur vie? C'est ça qui est le plus fou et à la fois le plus dramatique. C'est qu'ils peuvent vivre toute leur vie dans l'Église, faire les choses, fonctionner comme l'Église doit fonctionner, puis ils sont aveugles. Aveugles sur la réalité divine sur cette terre. Et passer à côté complètement de la fidélité de Dieu, non pas de la manifestation de la fidélité de Dieu, de la manifestation de la bonté de Dieu, de la protection de Dieu, des promesses de Dieu, de tout ça. De tout ce que Dieu est et de tout ce que Dieu fait. Imaginez-vous une chose là. Ce serviteur-là qui est devant cette situation-là, il commence à se plaindre. Ah, Dieu, tu m'as abandonné. Ah, ça, c'est pas vrai. Ou ça marche juste des fois, d'autres fois, ça marche pas. Dieu m'a abandonné. Tu sais, le petit hamster va loin, là. La pensée va loin. Et combien de fois notre petit hamster se met à pédaler, à pédaler, à pédaler. Et on va loin dans notre pensée, mais on va loin de Dieu, là. On s'en va loin dans nos pensées, dans nos scénarios, dans nos hypothèses et dans nos conclusions. Pourquoi? Parce que on n'a pas la bonne vision. Tout simplement. Parce qu'on n'a pas la bonne vision. Alors, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous changer à partir d'aujourd'hui? Notre qualité de service va dépendre de notre vision spirituelle. De notre vision spirituelle, de notre capacité à voir, à comprendre et à vivre les préceptes. Peut-être que tu es dans une situation présentement et tu as besoin d'avoir la vision d'Élisée, mais tu as la vision de son serviteur. Et tout ce qui sort de ta bouche, toutes les décisions que tu prends au quotidien, sont en lien avec cette mauvaise vision que tu as, ou cette absence de vision que tu as, alors que le Seigneur veut te montrer qu'il est là avec toi, que la réponse, elle est là, que les ressources sont là, que Dieu a mis à sa disposition son armée pour toi, que Dieu a mis à ta disposition sa puissance pour toi, ses promesses. La Bible nous parle également d'un autre précepte tellement important et tellement fondamental. C'est que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la vision du cœur. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si j'ai la foi dans mon cœur, si j'ai la foi dans la parole de Dieu, si cette foi est vivante, alors j'aurai une vue adéquate. J'aurai une vue qui va s'améliorer constamment. Mais si je manque de foi, ma vue va s'affaiblir. J'aurai de la difficulté à discerner, à percevoir les choses qui sont devant moi. Quelle est la vision de ta foi? Je pense que c'est une bonne question. Quelle est la vision de ta foi? Est-ce que ton cœur est endurci à la parole? Si ton cœur est endurci à la parole, c'est-à-dire que la parole est sans effet dans ta vie, ta vue, même si tu te dis chrétien, même si tu viens, bon, tu ne peux pas venir maintenant, mais mettons que tu pourrais venir tous les dimanches, ou que tu assistes à toutes les programmations, les séances que nous avons, même si tu es fidèle à ça, si ton cœur est dur et endurci, ta vision va être mauvaise également. Donc, faisons attention à notre cœur et à l'état de notre cœur. Parce que notre vision en dépend. Et tout le reste également. On n'ira pas plus loin dans notre service ni dans notre vie que notre vision. Notre vie, notre service va s'arrêter là où notre vision va s'arrêter. Donc, si déjà au départ, on a une très mauvaise vision, on n'ira pas loin avec le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Mais si on a une bonne vision, on va pouvoir aller loin et vivre de grandes choses pour Dieu et expérimenter de grandes choses dans le service pour le Seigneur. Donc, à chacun de nous de choisir quel genre de vie nous allons avoir. Revenons à l'aveugle de Bethsaïda maintenant. On est parti un peu dans toute la Bible pour parler de l'importance de la vue. Mais revenons à Bethsaïda. Bethsaïda, dans le fond, ce que Jésus a fait avec cet homme-là est remarquable parce que, encore là, Jésus prend cet homme à part. Jésus n'est pas dans le m'as-tu vu. Jésus n'est pas là en train de regarder ce que je fais, puis ça. Non, Jésus n'est pas à la recherche de publicité ni de reconnaissance. Il prend cet homme-là à part et il met de la salive sur ses yeux. Il lui impose les mains. Pourquoi est-ce qu'il met de la salive dans ses yeux? Eh bien, c'est simple. À l'époque, les gens avaient cette croyance que un bon médecin utilisait la salive parfois comme traitement, comme moyen de traitement d'infection ou de maladie. La salive était utilisée. Donc, il y avait cette croyance-là. Donc, Jésus, en faisant l'usage de la salive, est en train de parler ou de faire les choses d'une façon que l'homme comprenne ce qui est en train d'arriver. Parce que c'était, comme je disais, une croyance commune, l'usage, l'utilisation de la salive pour des traitements de cure. Donc, Jésus va au niveau de cet homme-là pour le guérir. Mais vous avez sûrement remarqué, c'est que ce n'est pas un miracle qui s'opère instantanément. C'est un miracle progressif. Jésus le fait une fois, il lui touche les yeux, il lui impose les mains, il lui demande s'il voit quelque chose. Et là, l'aveugle dit, j'aperçois des hommes et on dirait que ce sont des arbres qui marchent. Et là, Jésus le fait à nouveau. Et c'est seulement lorsqu'il le fait à nouveau que par la suite, il est capable de regarder fixement et de distinguer tout, et de tout regarder distinctement. Donc, d'avoir vraiment une vision propre. Encore là, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence que cela arrive, c'est pas que Jésus a manqué de foi, ou que cet homme-là a manqué de foi, ou que tout d'un coup, Jésus était fatigué, fait qu'il avait moins de puissance, là, tu sais. Tout d'un coup. Il y a une baisse dans la puissance de Jésus, fait qu'il a dû s'y reprendre à deux fois, non. C'est parce que aussi là, il y a un message pour nous, c'est que la vue ou le processus pour atteindre une vue qui est propre, une vision qui est nette, c'est pas quelque chose qui se fait instantanément. C'est un processus, c'est un cheminement dans lequel on a besoin régulièrement que le Seigneur nous touche. On a régulièrement besoin que le Seigneur touche nos vies, notre cœur, touche notre pensée. touche notre vie, pour qu'il nous éclaire davantage. On a besoin que Jésus nous touche. Et comment est-ce que le Seigneur nous touche aujourd'hui? Il y en a qui diront, ben, j'attends de sentir sa main sur mes yeux. Ben, à chaque fois que tu lis la Bible, à chaque fois que tu prends ceci et que tu le lis et que tu le médites, c'est comme si Jésus vient et met sa main sur tes yeux. Chaque fois. À chaque fois que tu prends cette Bible et que tu la lis avec ton cœur, un cœur réceptif, un cœur ouvert, c'est Jésus qui met sa main sur ton cœur pour qu'il ne soit pas endurci. Donc à chaque fois que tu t'approches de Dieu à travers sa parole, c'est un travail qui se fait dans ta vie. Et on en a tous besoin. Personne n'a une vision nette, claire, précise du royaume de Dieu et des choses spirituelles. Non. C'est un processus. Mais l'important, c'est d'être en marche dans ce processus-là. Le croyant, le vrai croyant, est dans ce processus. Le monde est perdu. Le religieux est perdu aussi, mais il est complètement dévié. Mais le croyant, c'est celui qui est sur la voie et qui, tranquillement, le Seigneur lui montre et lui ouvre les yeux. Et donc, la prière pour nous, ce soir, eh bien, ce serait de Seigneur, juste ouvre-moi les yeux, ouvre nos yeux. J'ai besoin de voir. Je vis trop selon ce que je vois. Je vis trop selon les situations. Je suis plus influencé par ce qui se dit dans les nouvelles que par ce qui se dit dans ta parole. Je suis plus influencé par les événements qui se passent dans le monde, dans l'actualité, que par les événements qui se passent dans la parole et dans ton royaume. J'ai pas la bonne vision, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Marc chapitre 8, verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Voilà où ce que nous, en tant que serviteurs, en tant que croyants, nous devons aspirer à voir tout distinctement. Nous ne sommes pas rendus là, mais je pense que l'important pour nous, ce serait que à la sortie de cette période difficile, où tout est incertain, où tout est flou, eh bien, que le contraire arrive avec notre vision. Que notre vision ne soit pas floue. Si les circonstances autour sont floues, mais que notre vision devienne encore plus nette. Que notre vision soit encore plus aiguisée, si on peut dire, plus habile. Ça serait merveilleux que de vivre cela, alors que le monde s'engouffre plus dans les ténèbres. Nous nous remplissons plus de lumière pour pouvoir refléter cette lumière. Mais pour cela, nous-mêmes, nous avons besoin de recevoir cette lumière et que nos yeux soient ouverts. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. J'ai besoin de voir. Il y a des gens qui... Vous avez grandi à l'église. Ça fait des années que vous êtes à l'église. Et vous avez besoin de voir. De voir Dieu. Vous avez besoin que vos yeux soient ouverts. Vous ne pouvez plus vivre selon ce qui se passe juste au plan naturel, ni au plan physique. Il faut regarder avec les yeux spirituels. Il faut commencer à regarder avec les yeux de la foi. Il faut arrêter d'être comme le serviteur d'Élisée qui panique, mais qui est au service de Dieu, mais qui ne voit pas ce qui réellement est en train de se passer. Soyons comme Élisée. Qu'on puisse être tranquille et dire aux autres, « Hey, relax! Relax! » Le Seigneur est en contrôle. Tu vois pas? La réponse de Dieu est là. Tu vois pas? La promesse de Dieu est là. Tu ne vois pas? La puissance de Dieu se manifeste. Hey, notre vie serait tellement différente si on aurait cette capacité-là de vision spirituelle. Alors que le Seigneur nous l'accorde et qu'on puisse s'approcher davantage de lui. Donc, en résumé, le point central de ce chapitre, c'est l'aveuglement. Et donc, la guérison de cet aveugle, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle ça s'est trouvé là. Et c'est également un lien pour ce qui vient juste après, qu'on va voir la semaine prochaine, où est-ce que là, un des disciples, Dieu va ouvrir les yeux sur une révélation, la révélation la plus importante de la foi chrétienne. Donc, on a vu que tous sont aveugles à différents niveaux, à différents degrés. Le monde est dans les ténèbres. Le religieux est aveugle dans ses traditions. Et le croyant est aveugle à cause de la dureté de son cœur. Et on a vu l'importance de la vision spirituelle parce qu'elle donne la capacité de pouvoir voir les réalités spirituelles, de les comprendre, les vérités du royaume de Dieu et de vivre selon elles. Donc c'est important d'avoir la vision spirituelle. Aux yeux de la parole, le monde est comme des brebis sans berger. Et notre travail à nous, c'est de servir Dieu, se servir le monde avec la lumière de Dieu pour pouvoir ouvrir leurs yeux. Les religieux, bien, c'est qui? C'est des conducteurs aveugles. C'est des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et pour le croyant, la recommandation, c'est attention au cœur. Attention à la condition de ton cœur parce que c'est une incidence directe sur ta vision. Donc, ayons une vision claire. Et comprenons que c'est un processus. C'est un processus. Mais qu'à chaque fois que tu t'approches de la parole, que tu la lis pour apprendre, pour que Dieu te parle, eh bien c'est Dieu qui met ses mains, alléluia, sur tes yeux, et qui enlève des couches, qui enlève des impuretés, afin que ta vision devienne meilleure jour après jour. Alors nous allons prier. Nous allons terminer ici. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu nous parles et tu nous montres l'importance, Seigneur, d'avoir une vision claire. Une vision claire, Seigneur, des vérités de ton royaume. Une vision claire de la parole de Dieu, de ce que toi tu es en train de faire. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'on se croit professionnel, Seigneur. On agit, Seigneur, avec tellement de prétention, Seigneur. On se fraude à soi-même, on se ment à soi-même, Seigneur, en prétendant, Seigneur, être spirituel, être ci, être ça, et dans le fond, Seigneur, on est peut-être pire que des aveugles, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, mais qu'on puisse, dans le temps qu'on vit maintenant, Seigneur, des temps qui sont flous, qui sont incertains, Seigneur, on ne sait pas ce que l'avenir, Seigneur, nous réserve, que notre vue, notre vision, Seigneur, soit guérie. Que notre vue, Seigneur, soit nettoyée. Que nos yeux, Seigneur, soient touchés par toi. Seigneur, que tu puisses enlever tout obstacle à notre vue. Mais également, Seigneur, notre cœur. Que notre cœur ne soit pas endurci. Qu'il n'y ait pas du levain des pharisiens, ni du levain d'Hérode, Seigneur, dans notre cœur. Qu'on puisse être pur. Pur dans notre cœur, Seigneur. Avoir un cœur pur, un cœur agréable à toi. Un cœur réceptif à ta parole. Et comprendre qu'à chaque fois, Seigneur, que nous allons vers ta parole, bien, c'est toi, Seigneur, qui purifie nos yeux, qui nous ouvre davantage les yeux, qui nous éclaire davantage. Et comme Paul a prié pour les Éphésiens, moi je prie, Seigneur, pour nous tous. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir ce qui peut juste être vu à travers, Seigneur, une vision spirituelle. Ce qui peut juste être vu à travers l'Esprit. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Illumine-les, Seigneur, pour qu'on puisse voir l'espérance, qu'on puisse voir la gloire, qu'on puisse voir l'héritage, la richesse, Seigneur, qui est destinée à tes enfants. Qu'on puisse être comme Élisée, Seigneur, qui, au milieu de la menace, Seigneur, au milieu de l'adversité, Seigneur, on reste tranquille parce qu'on voit l'armée de Dieu. Parce qu'on voit les chevaux et les chars de Dieu. Parce qu'on voit la réponse de Dieu, le secours de Dieu. On le voit, Seigneur, et on n'est pas pris, Seigneur, dans la panique à droite et à gauche, comme l'autre serviteur, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Ou ce soir, Seigneur, de pouvoir expérimenter une guérison, une transformation, même au niveau de notre vision physique, comme un signe, quoi la vision spirituelle également est en train de changer, de s'améliorer. Nous avons prié, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Puisses-tu nous garder, Seigneur, dans le reste de cette soirée, de cette semaine. Merci, Seigneur, en ton nom précieux, Jésus. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Bon restant de soirée et bon restant de semaine. N'oubliez pas demain, bénédiction matinale avec le pasteur Florent, 8h30. Et il y a dimanche également, on va se retrouver ici. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Je vous dis shalom. Bye bye.